57. Trévis dormit considérablement plus longtemps que prévu. Mais cela n'avait guère d'importance. Il n'y avait à bord ni jour ni nuit au sens naturel du terme, et le rythme circadien ne fonctionnait jamais à la perfection. Les heures étaient ce qu'on voulait bien en faire, et il n'était pas rare pour Trévis et Pélorate, et surtout Joie, de se trouver en déphasage avec les rythmes naturels des repas et du sommeil. Trévis caressait même, tout en se récurant, l'importance de la conservation de l'eau conseillait le récurage, de préférence au rinçage, la possibilité de dormir encore une heure ou deux, lorsqu'en se retournant, il se trouva nez à nez avec Phalum, qui était aussi dévêtu que lui. Il ne put s'empêcher de sursauter, ce qui, vu l'exiguïté des sanitaires, devait fatalement amener une partie de son individu en contact brutal avec quelque chose. Il grommela. Phalum le regardait avec curiosité, tout en désignant son pénis. Ce qu'il disait était incompréhensible, mais toute son attitude semblait traduire un sentiment d'incrédulité. Pour sa propre tranquillité d'esprit, Trévis n'avait d'autre choix que de porter les mains sur son membre. Alors Phalum dit de sa voix aiguë
« Salutations !»
Trévis sursauta quelque peu devant cet emploi inattendu du galactique, mais à l'oreille, le terme donnait l'impression d'avoir été appris par cœur. Phalum poursuivit, énonçant péniblement un mot après l'autre.
« Joie a dit que vous me laviez. »
« Oui. » Trévis lui posa les mains sur les épaules. « Tu restes ici. » Il avait pointé le doigt vers le sol, et Phalum, bien entendu, regarda aussitôt l'endroit que le doigt désignait. Il n'avait absolument pas saisi le sens de la phrase. « Ne bouge pas !» dit Trévis, tout en le maintenant fermement par les deux bras, les lui plaquant au corps, comme pour symboliser l'immobilité. Il se sécha en hâte et passa son slip, puis son pantalon. Il sortit de la cabine et rugit.
« Joie !»
Il était difficile de se trouver à plus de 4 mètres de distance de quiconque à bord, et Joie arriva aussitôt, remarquant, tout sourire, « Vous m'avez appelé, Trévis, ou bien était-ce le doux murmure de la brise dans les hautes herbes ?»«
Ne plaisantons pas, Joie. Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Il pointait le pouce par-dessus son épaule. Joie regarda derrière lui et dit
« Eh bien, on dirait le jeune solarien que nous avons embarqué hier. »«
Que vous avez embarqué? Pourquoi voulez-vous que je le lave ?»«
J'ai pensé que vous voudriez le faire. C'est une créature fort intelligente. Il saisit très vite le galactique. Une fois que je lui ai expliqué une chose, il ne l'oublie plus. Bien entendu, je l'y encourage.
Évidemment.
Oui. Je tâche de le calmer. Je l'ai maintenu dans un état d'hébétude durant la plupart des événements troublants sur la planète. J'ai veillé à ce qu'il dorme à bord, et j'essaie de lui détourner un petit peu l'esprit de son robot perdu, ce Jembi qu'apparemment il aimait beaucoup.
Pour qu'il finisse par se plaire ici, je suppose.
Je l'espère. Il est adaptable parce qu'il est jeune, et j'encourage la chose dans la limite où je me risque à lui influencer l'esprit. Je compte lui enseigner le galactique.
Alors c'est vous qui le lavez, compris ?
Joie haussa les épaules.
Je veux bien, si vous insistez, mais j'aimerais qu'il se sente à l'aise avec chacun de nous. Il serait utile que chacun de nous accomplisse tour à tour des fonctions parentales. Vous pouvez certainement coopérer.
Pas à ce point. Mais quand vous aurez fini de le débarbouiller, débarrassez-vous-en. « Je veux vous parler. »
Elle dit avec une soudaine touche d'hostilité.
« Comment ça, m'en débarrasser ?
Je ne veux pas dire le passer par le sas. Je veux dire le fourrer dans votre cabine. Installez-le dans un coin. Je veux vous parler. »«
À votre service, » répondit-elle glaciale.
Il la fixa un moment, laissant mijoter sa colère, puis gagna le poste de pilotage et activa l'écran. De Solaria, il ne restait qu'un cercle sombre, avec un croissant de lumière qui s'incurvait à gauche. Trévis plaqua les mains sur la tablette pour établir le contact avec la machine et sentit aussitôt retomber sa colère. Il fallait être calme pour que s'instaurât la liaison de l'esprit avec l'ordinateur, et au bout du compte, un réflexe conditionné finissait par associer le contact avec la sérénité.
Aucun objet de nature artificielle n'était nulle part visible autour du vaisseau, et ceci sur une distance allant jusqu'à la planète elle-même. Les Solariens, ou plus probablement leurs robots, ne pouvaient ou ne voulaient pas les suivre. À la bonne heure. Ils pouvaient aussi bien sortir de l'ombre alors. S'ils continuaient de s'éloigner, celle-ci disparaîtrait de toute façon à mesure que le disque de Solaria deviendrait plus petit que celui plus lointain, mais bien plus grand, du soleil autour duquel elle orbitait. Dans la foulée, il programma la machine pour que leur vaisseau sortît du plan de l'écliptique, de manière à faciliter les conditions d'accélération. Ainsi atteindrait-il plus vite une région où la courbure de l'espace serait assez faible pour autoriser le saut en toute sécurité. Et comme souvent en de telles occasions, il se surprit à étudier les étoiles. Leur tranquille immuabilité les rendait presque hypnotiques. Toutes leurs turbulences, leurs instabilités, étaient gommées par la distance qui les réduisait à de simples points de lumière. L'un de ces points était peut-être le soleil autour duquel tournait la Terre. Le soleil, avec un S majuscule, originel, sous les rayons duquel était née la vie et sous les bienfaits duquel avait grandi l'humanité. Sans aucun doute, si les mondes de spatiaux tournaient autour d'étoiles qui, bien que membres brillants et importants de la famille stellaire, n'étaient pas reportés sur la carte galactique de l'ordinateur, il devait en aller de même du soleil. Ou bien était-ce seulement les soleils des mondes spatiaux qui étaient omis, au terme de quelque accord remontant à l'Antiquité, les abandonnant à eux-mêmes? Le soleil de la Terre était-il porté sur la carte galactique, mais sans être distinct des myriades d'étoiles analogues, quoique dépourvues de planètes habitables en orbite autour d'elles? Il y avait après tout quelque 30 milliards d'étoiles analogues au soleil dans la galaxie, et seulement 1 sur 1000 possédait des planètes habitables. Il devait s'en trouver 1000 dans un rayon de quelques centaines de parsecs autour de leur position actuelle. Devrait-il les passer au crible une par une pour chercher leur planète? Ou le soleil originel ne se trouvait-il même pas dans cette région de la galaxie? Combien d'autres régions étaient-elles persuadées que le soleil était évidemment parmi leurs voisins, qu'elles étaient évidemment issues des premiers colons? Il avait besoin d'informations. Et pour l'instant, n'en avait aucune. Il avait fortement douté qu'un examen, même minutieux, des ruines millénaires d'Aurora leur eût apporté la moindre information concernant la position de la Terre. Il doutait encore plus que les Solariens se fussent laissés convaincre de fournir le moindre renseignement. Et puis aussi, si toutes les informations concernant la Terre avaient disparu de la grande bibliothèque de Trantor, si nul détail sur la Terre ne subsistait dans la vaste mémoire collective de Gaïa, il semblait peu probable qu'on eût négligé une information quelconque qu'auraient pu détenir les planètes perdues des spatiaux. Et en imaginant même qu'il trouve le soleil de la Terre, puis la Terre elle-même, par le plus grand des hasards favorables, quelque chose le forcerait-il à en rester inconscient? Les défenses de la Terre étaient-elles absolues? Sa détermination à rester cachée était-elle inflexible? Au fait, que cherchait-il au juste? Était-ce la Terre? Ou bien la faille dans le plan Seldon qu'il pensait, pour des raisons peu claires, éventuellement découvrir sur Terre? Le plan Seldon fonctionnait depuis maintenant 5 siècles et devait, prétendument, enfin conduire l'espèce humaine à bon port dans le giron du Second Empire galactique, un empire plus grand encore que le premier, plus noble et plus libre. Et pourtant lui, Trévise, avait voté contre au profit de Galaxia. Galaxia devait être un vaste organisme, tandis que le Second Empire galactique ne serait jamais, si grande que fût sa taille, si grande sa variété, qu'une simple union d'organismes individuels de taille microscopique comparée à elle. Le Second Empire galactique constituerait encore un exemple du genre d'union d'individualité que l'humanité pratiquait depuis qu'elle était devenue humanité. Le Second Empire galactique pouvait bien être le plus grand, le meilleur représentant de son espèce, il n'en serait jamais qu'un membre de plus. Pour que Galaxia, un membre d'une espèce d'organisation entièrement différente, surpassât le Second Empire galactique, il fallait qu'il y eût une faille dans le plan. Une chose même que le grand Harry Seldon avait omis de voir. Mais si Harry Seldon lui-même ne l'avait pas remarqué, Comment Trévise pouvait-il rectifier le tir?
Il n'était pas mathématicien, ne connaissait rien, strictement rien, aux détails du plan. A fortiori, n'y comprendrait rien, même si on le lui expliquait.
Tout ce qu'il en connaissait, c'était les hypothèses qu'un grand nombre d'hommes devaient être impliqués et qu'il ne devait pas avoir conscience des conclusions obtenues.
La première hypothèse était manifestement vérifiée, vu la vaste population de la galaxie. Et la seconde devait l'être, puisque seuls les seconds fondateurs connaissaient les détails du plan et qu'ils ne risquaient pas de les divulguer.
Ce qui laissait une hypothèse supplémentaire non vérifiée, une hypothèse considérée comme allant de soi, au point qu'on n'en faisait jamais mention, qu'on n'y songeait jamais, et qui pourtant pouvait se révéler fausse. Une hypothèse qui, si tel était bien le cas, modifierait la grande conclusion du plan et rendrait Galaxia préférable à l'Empire.
Mais si l'hypothèse était si évidente, si elle allait tellement de soi qu'on ne l'évoquait jamais, comment pouvait-elle être fausse?
Et si jamais personne ne la mentionnait ou n'y songeait, comment Trévise pouvait-il en connaître l'existence ou simplement avoir une idée de sa nature même s'il l'avait soupçonnée?
Était-il bien Trévise, l'homme à l'infaillible intuition, comme le soutenait Gaïa? Savait-il ce qu'il fallait faire, même quand il ignorait lui-même de quoi il retournait?
Et voilà qu'il visitait tous les mondes de spatiaux dont il avait connaissance.
Était-ce bien ce qu'il fallait faire? Les mondes de spatiaux détenaient-ils la réponse? Ou du moins un commencement? Qu'y avait-il sur Aurora, à part des ruines et des chiens sauvages, et sans doute d'autres créatures féroces? Des taureaux écumants? Des rats géants? Des chats rôdeurs aux yeux verts?
Solaria était peuplée. Mais qu'y avait-il à sa surface, hormis des robots et des humains vecteurs d'énergie?
Quel rapport avait l'une ou l'autre planète avec le plan Seldon, à moins de posséder le secret des coordonnées de la Terre?
Et si c'était le cas, quel rapport avait donc la Terre avec le plan Seldon?
Tout cela était-il pure folie? Avait-il trop longtemps et trop sérieusement prêté foi au délire de sa propre infaillibilité?
Il sentit le poids étouffant de la honte l'assaillir, et semblait-il l'étouffer au point de ne presque plus pouvoir respirer.
Il contempla les étoiles, lointaines, indifférentes, et se dit qu'il devait être le plus grand crétin de la galaxie.